à Rencontre spirituelle en ce 4 avril. C'est la fête d'une sainte presque inconnue, sainte Marceline, et pourtant, elle était la sœur de saint Ambroise. Sœur aînée, c'est elle qui a plus ou moins éduqué saint Ambroise, élevé saint Ambroise. Et tous les deux sont décédés en 397, il y a exactement 1600 ans. C'est le 16e centenaire. Et saint Ambroise est décédé un 4 avril, donc c'est aujourd'hui, ce 16e centenaire de son entrée au ciel. Et sainte Marceline, sa sœur aînée, est la patronne des sœurs de sainte Marceline, puisque ces religieuses italiennes ont été fondées au siècle dernier, à l'endroit où sainte Marceline est décédée. C'était une patricienne, une femme de très grande famille de Rome. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Vous verrez que la vie de cette sainte très ancienne est intéressante. Beaucoup de choses assez particulières. Si on connaît bien saint François d'Assise, sainte Thérèse d'Avila, sainte Bernadette, etc., qui sont des noms très connus, évidemment qu'il y a bien peu de gens qui savent qui est vraiment sainte Marceline. On sait qu'elle existe depuis quelques années à Montréal, depuis une quarantaine d'années, grâce justement aux sœurs de sainte Marceline, qui sont des éducatrices, et aussi des personnes qui prennent soin des vieillards. Et dans d'autres pays, elles ont des hôpitaux, des dispensaires, etc. C'est assez extraordinaire l'œuvre de ces religieuses italiennes, qui, évidemment, ne sont plus qu'italiennes, puisqu'elles sont répandues dans le monde, et il y a des Québécoises parmi elles. Saint Ambroise, je vous rappelle qui c'est, son jeune frère, c'était le premier évêque de Milan, hein, au 4e siècle. Il avait d'ailleurs un frère, elle avait un autre frère, Saint Satyre, quel drôle de nom, un autre saint. Elle les a élevés tous les deux, elle en a fait des saints. Mais alors, qui est-elle, cette éducatrice extraordinaire qui réussit à éduquer deux jeunes gens dans un milieu difficile et en faire des saints? Elle a vécu, elle, à Rome, comme je vous ai dit, c'est une patricienne de Rome, c'est-à-dire des grandes familles de Rome. Puis elle a vécu aussi à Milan. C'est au 4e siècle, donc. Les documents historiques de l'époque, les lettres que saint Ambroise lui a adressées régulièrement, nous confirme tout ça. On a des documents pour retracer la vie, donc, de cette femme extraordinaire. Si elle appartenait à une famille noble, vraiment une très grande famille noble à Rome, qu'elle était l'aînée de trois enfants, elle a su, évidemment, veiller à la formation morale aussi, à la formation religieuse de ses jeunes frères, et non seulement à leur éducation intellectuelle, à leur instruction, quoi. Tous deux ont reçu le baptême, comme le voulait l'usage à l'époque, à l'âge adulte, même très âgé, c'est surprenant, hein, comme on attendait longtemps, longtemps. Marceline, quant à elle, elle souhaitait se donner à Dieu, à Jésus. Chose absolument exceptionnelle à cette époque. Elle voulait vivre un absolu, qui s'appellerait, dans sa pensée à elle, le recueillement, puis la prière. Alors, pour ce faire, elle s'est consacrée à Dieu en 352. Donc, elle avait environ 24 ans. Et elle s'est retirée en banlieue de Milan. Et elle s'est éloignée, ainsi, on peut dire, de la frénésie de cette grande ville, qui était devenue la capitale dans le nord de l'Italie de l'Empire romain. Elle avait alors... Donc, je vous le rappelle, on calcule à peu près 24 ans, quoi. Donc, une jeune fille mûre, surtout pour l'époque, mais c'était pas facile pour elle. Il s'agissait pas d'abord d'une fuite, ça, on en est sûr. Marceline a découvert l'Église qu'elle a aimée et qu'elle a défendue toute sa vie. Et... elle l'a défendue en compagnie de son frère Ambroise, qui a été un évêque extraordinaire, un docteur de l'Église, un père de l'Église. À sa mort, Marceline, à 70 ans, en l'an 397, donc, elle a pu rejoindre ce Dieu qu'elle a cherché et qui la cherchait, et qu'elle avait surtout tant aimé au cours de sa vie. Et c'est ce qui est arrivé que bien des siècles plus tard, comme je l'ai dit au début, là, un prêtre milanais, Monseigneur Luigi Biraghi, a fondé cette congrégation religieuse des Sœurs de Sainte-Marceline que nous connaissons bien à Montréal et même à Granby, et qui sont vouées à l'éducation. Alors il a choisi Sainte-Marceline comme modèle et patronne de ces religieuses-là, et qui vont s'appeler de ce fait les Sœurs de Sainte-Marceline ou les Marcelines aussi. C'était en 1838. Ce sera donc un grand anniversaire l'an prochain, le 160e anniversaire. Aujourd'hui encore, les Marcelines continuent leur mission, n'est-ce pas, dans 8 pays du monde. Et nous pouvons bien être fiers de les avoir à Montréal. Et on les reconnaît d'ailleurs quand on les voit. Comment ça? Ben, c'est tout simplement parce qu'on sont à peu près les seuls à porter un costume très sobre, noir. On en voit sur des photos parfois en gris. Et elles ont un voile noir aussi. Et comme dirait ma petite fille que j'avais autrefois, malheureusement je ne l'ai plus, quand elle envoyait à l'âge de 5-6 ans, elle disait « Oh, des vraies sœurs! » T'es naïf. Toutes les sœurs sont de vraies sœurs, c'est sûr. Mais pour elle, celle qui avait un beau costume qu'elle pouvait reconnaître, elle l'attirait, puis elle voulait devenir une sœur. La ville de Rome, cette ville qu'on appelle la ville aux sept collines, elle avait tout conquis, c'était une ville puissante, elle rayonnait sur toute la Méditerranée. Et le Colisée rappelait silencieusement, on peut dire, la foi des premiers martyrs chrétiens de cette ville. Et le fait que ces martyrs avaient versé leur sang pour le Christ rejoignait le cœur de bien des gens. Ça rappelait le grand courage. Le christianisme né au Moyen-Orient ne s'est enraciné pourtant dans cette terre païenne qu'au milieu du premier siècle, on le sait, à la suite de la prédication puis de la mort de Saint-Pierre et Saint-Paul. Et dès lors, petit à petit, les chrétiens ont subi par période, évidemment, des persécutions cruelles, on le sait tous. Et à première vue, l'opposition des autorités romaines face aux croyants de cette nouvelle religion, ça peut sembler étonnant qu'ils se soient acharnés contre cette religion-là alors qu'il y en avait bien d'autres. C'est que l'Empire romain avait jusque-là toléré divers types de croyances qui ne les agaçaient pas trop, si on peut parler vulgairement. Mais cette nouvelle religion chrétienne, elle semblait ébranler l'ordre politique qui prévalait à Rome. Et pourquoi? Mais tout simplement, parce que dans ce temps-là, Rome et ses empereurs étaient considérés comme des dieux, ils étaient déifiés. Et ce Jésus qui survenait comme ça, que l'on considérait comme le seul Dieu, le Fils du Dieu unique, un seul Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Alors les empereurs romains, pour justifier aux yeux du peuple leur suprématie, mais ils devaient évidemment affirmer leur caractère sacré, et les chrétiens, comme le leur avait enseigné Jésus, n'est-ce pas, quand il dit « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », mais ils respectaient l'autorité établie, mais parce qu'ils ne croyaient qu'en un seul Dieu, comme je viens de vous le dire, ils ne pouvaient pas admettre la divinité des empereurs de Rome. La croyance très répandue que les chrétiens représentaient un danger pour la société, pour l'État romain, a aussi été la cause ou le prétexte des persécutions. On a répandu ces bobards. On le fait encore aujourd'hui. On dit que les chrétiens nuisent à l'évolution d'une société libérée qui pourra faire tout ce qu'elle veut dans la libération et de tout. Et les chrétiens et le pape sont fustigés dans nos journaux, la télévision, un peu partout. C'est un peu la même chose. Mais c'est pas la persécution sanguinaire, si on peut dire, encore du moins ici, en Europe et en Amérique du Nord. Alors Rome s'est senti menacée, puis Rome veut tuer à cette nouvelle façon de penser et de croire que sont qu'ont les chrétiens, qui va à l'encontre des théories romaines. Et les persécutions ne cessent qu'au moment où la religion chrétienne devient la religion des masses. Et face à un tel phénomène, ben, l'empereur Constantin le Grand, qui est mort en l'an 337, donc au 4e siècle, concède finalement aux chrétiens la liberté de culte, qu'il confirme avec l'édit justement de Milan en l'an 313, Peu de temps avant sa mort, il se convertit d'ailleurs. Et quelques années après, l'empereur Théodose fait du christianisme la religion officielle de l'État romain. Alors, je vous ai brossé un petit tableau rapide, là, pour comprendre. Arrive Marceline, notre Marceline, Sainte Marceline. C'est la première enfant de cette famille noble, patricienne de Rome. Marceline naît en l'an 327, 14 ans à peine, donc après l'édit de Milan qui libère les chrétiens. Le christianisme tente alors, à ce moment-là, de se frayer un chemin dans cette ville importante, hein, et qui est pourtant remplie des monuments de l'apothéose païenne de l'époque. Hein. Et derrière les majestueuses façades de marbre se cache bien souvent le culte des idoles, comme au Panthéon, qui est toujours là, et dans les temples dédiés aux différentes divinités. On en a les ruines à Rome. Et la jeune Marceline vit dans un monde où les femmes se marient pour divorcer, comme on dit à l'époque. Ça ressemble donc à une grande partie de ce que font les femmes et les hommes aujourd'hui, hein, de marier pour divorcer. Et les gens, finalement, qu'est-ce qu'ils désirent? Ils attendent, comme on disait, le pain et les jeux. Juste pour rire, comme on dit aujourd'hui. Festival du rire. Les cris. Le stade Molson, etc. C'est étrange. Hein? Les gens sont fascinés par tous ces jeux. C'est agréable, d'ailleurs, souvent. Mais il n'y a pas que ça. Hein? Et c'est déjà une société, à Rome, là, une société de consommation, de joie facile. Des plaisirs instantanés. Et la moralité est loin d'être irréprochable. Mais cependant, la famille de Marceline, comment témoigne le martyr de Sainte Sotère, son ancêtre, est profondément chrétienne. Ses parents la préparent au baptême qu'elle va recevoir, comme le veut l'usage de l'époque, à l'âge adulte. Puis un autre enfant s'attire, son frère. Et les deux petits ont grandi à Rome, éduqués d'abord par leur mère, qui privilégie un enseignement simple et vrai, puis par des maîtres qui sont aptes à leur inculquer, quoi? Ben, les rudiments de la grammaire, évidemment, de la rhétorique, de la littérature romaine et grecque. Et lorsque Marceline atteint l'âge de 13 ans, en 340, son père, qui est élu préfet de prétoire dans les Gaules, doit déménager à Trèves sur le Rhin. Et nous verrons tout à l'heure la suite de la vie de cette famille et l'arrivée d'un saint Ambroise. Atteint l'âge de 13 ans, en 340, je vous ai dit qu'ils s'en vont à Trèves, donc en Allemagne d'aujourd'hui. Toute la famille le suit. C'est à Trèves, donc, que naît le Benjamin Ambroise, le futur évêque de Milan. Alors, notre adolescente, Marceline, s'épanouit pleinement lorsque son père meurt prématurément, tout à coup. Il laisse un vide immense, évidemment, dans le cœur de sa femme, son épouse, et de ses enfants, dont le jeune Ambroise. Et la famille décide alors de retourner à Rome, dans leur maison ancestrale, une maison très riche, près du Capitole. Les premiers temps sont pénibles, quand même. L'absence du père évidemment, se fait sentir. Cependant, peu à peu, la vie normale reprend son cours et Marceline poursuit sa formation. Et comme toutes les chrétiennes de l'époque, elle approfondit quoi? La Bible, les Saintes Écritures, oui. Elle étudie aussi la poésie grecque. Puis elle apprend à travailler la laine. Mais par contre, ce qui lui tient le plus à cœur, c'est sa préparation pour son baptême, par le catéchisme, l'étude de la foi, quoi. Elle fait ça avec beaucoup de ferveur, ce qui lui permet, lorsqu'elle a 20 ans, de recevoir enfin le baptême. Donc, à 20 ans, Marceline est à la fois noble, belle, elle pourrait facilement se trouver un bon parti. Cependant, ce qui semble évident aux yeux du monde est loin de l'être pour Marceline. Pourquoi? Bien, elle voit des gens de toute langue et de toute nation, hein. Et puis, à Rome, hein, elle voit l'opulence des grands seigneurs. Elle voit les banquets, le luxe, quoi, des repas, des toilettes. Puis d'autre part, c'est les plus grands trésors. Ça ne lui fait pas oublier le sang des martyrs dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'abord, Saint-Pierre, Saint-Paul, son ancêtre, sainte Sotère, puis les catacombes, mais surtout la paix, puis la joie des chrétiens. Alors à 20 ans, donc, Marceline se demande, quel sens donner à ma vie? Qu'est-ce que je vais en faire de ma vie devant tout ça? 20 ans. L'agitation de la vie quotidienne ne lui permet pas de réfléchir calmement. Alors, elle décide de se retirer à la campagne, dans la villa paternelle, pour y voir plus clair. Et enfin, seule, elle peut vraiment réfléchir. Et on a le texte. Que vais-je faire? Vais-je me marier ou suivre Jésus? Je sens en moi le désir de me donner à Dieu. Mais que diront les gens? Parce qu'elle est noble, elle est patricienne, ça s'est jamais fait, une patricienne qui rentre, pour, comme on dit, en religion aujourd'hui. Elle continue. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais entendu dire qu'une jeune fille romaine de ma classe se soit consacrée à Dieu. Les autres patriciennes riront de moi et les nobles me dédaigneront. Mais qu'est-ce que cela peut me faire? Refuserais-je de devenir l'épouse de Jésus par peur de ce qu'en diront les autres? Qu'est-ce qui est plus important pour moi? Les qu'en dira-t-on? Ou Dieu? Dieu, évidemment. Et puis, Sotère, mon ancêtre, n'a-t-elle pas été fidèle jusqu'au martyr? Ne m'a-t-elle pas laissé, sous Dioclétien, en héritage, ses dons précieux, la foi chrétienne et un amour passionné pour Dieu? C'est décidé. Je me donne à Dieu et je me confie à Marie, sa mère, pour qu'elle me guide chaque jour vers lui, jusqu'au moment où je le verrai face à face. Quel beau jour que celui-là! Oui, Seigneur, je suis résolu. Je te dis oui. Et cette réponse à l'appel de Dieu sera loin d'être comprise dans une société où les mœurs sont corrompues, où le culte des idoles est encore présent. Il faut du courage pour prendre une telle décision. Du courage, oui, mais surtout, un grand amour pour Jésus. Un amour qui chasse la peur. Hein? Vous vous souvenez de cette parole dans la première épître de Saint Jean, chapitre 4? Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, l'amour parfait chasse la crainte. Je reçois des lettres de gens qui ont peur de Dieu, qui ont peur de mourir, qui ont peur de Jésus, qui ont peur de tout. Lisez donc ça, dans l'amour, c'est écrit il y a 2000 ans. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Au contraire, l'amour parfait chasse la crainte. Alors au 4e siècle, quand une jeune fille désire se consacrer à Dieu, elle doit d'abord vivre une très longue période de préparation, telle que le prescrit l'Église. Depuis, elle doit être âgée d'au moins 25 ans. Ensuite, seule une grande maturité, puis une force morale hors du commun, puis une profonde vie intérieure aussi, lui permettent de rester fidèle à Dieu dans ce monde païen. Comme notre monde d'aujourd'hui, quoi. Marceline se prête donc à cette formation, puis elle demande au pape Liber. Voyez-vous, je vous avais dit qu'elle appartenait à une très grande famille. Elle peut communiquer comme ça avec le pape Liber, parce que c'est un ami de la famille. Alors elle lui demande au pape de la guider dans sa démarche jusqu'au jour tant attendu. Alors le pape, l'ami de sa famille, au terme des 5 ans prescrits, la juge prête à s'offrir totalement à Dieu. Il lui donne l'approbation pour sa consécration solennelle qui a lieu le jour de Noël 352 dans la basilique Saint-Pierre de Rome, qui a été construite peu d'années auparavant sur la tombe de Saint-Pierre, le prince des apôtres, le premier pape. Ce jour-là, la jeune femme s'avance vers l'autel, elle y est vêtue simplement, et après s'être donnée à Dieu pour toujours, elle reçoit des mains du pape Liber un voile blanc dont elle coiffe sa tête. Puis, le pape lui adresse ces mots. C'est très beau. Aime ton époux, ma fille, car il est bon. Aime-le, c'est le Fils de Dieu, Jésus. Mène une vie simple et humble, restant toujours uni à lui dans ton cœur. Prie et médite beaucoup. Que ton exemple soit connu aux yeux de tous. Garde courage, ma fille. Ne réprime pas ta générosité. Et plus tard, ton exemple entraînera d'autres jeunes femmes à se consacrer elles-mêmes à Dieu comme toi. D'autres jeunes femmes? Bien oui, ce sont nos sœurs de Sainte Marceline. Revenons à la cérémonie. Après la cérémonie, Sainte Marceline se retire dans le palais familial où sa vie se déroule sereinement dans l'amour de Dieu et au service des siens. Ses frères, Ambroise et Satyre, sont vite conquis par l'exemple de leur sœur aînée. Ils cherchent à l'imiter, mais les chrétiens sont au courant. La croix étant le sceau des œuvres de Dieu, la souffrance ne tarde pas à entrer dans la vie de la jeune consacrée. Marceline et ses frères ont la douleur de perdre tout d'abord leur mère, mais elles demeurent unies et fortes dans l'épreuve. Grâce à leur foi profonde, puis comme ils étaient au courant que la souffrance fait partie de nos vies, elles affrontent surtout les souffrances. Et tous trois peuvent tout en ce Dieu qui leur donne la force, comme il est dit dans l'Épître aux Philippiens. Hein, c'est saint Paul qui dit « Je peux tout en celui qui me donne la force ». Alors la vie de Marceline est quand même toute simple. Elle sait rendre l'ordinaire extraordinaire grâce à l'amour avec lequel elle fait toutes choses. Très tôt le matin, avant l'aurore même, la prière de Marceline s'élève déjà vers Dieu, pour l'Église et pour l'humanité aussi. Son cœur est grand comme le monde. Le Seigneur, c'est dans la méditation quotidienne de l'Évangile qu'elle le rencontre. Elle essaie de suivre les préceptes de l'Évangile. Elle veut s'y conformer. Elle n'a pas peur de l'Évangile. Sa vie en témoigne d'ailleurs. Aujourd'hui, on a peur de l'Évangile. On ne veut pas que le Christ nous oblige à trop de choses et que le pape encore moins nous oblige à ceci ou à cela. Oh non. L'intensité de sa prière, Marceline, va de pair avec l'austérité de sa vie. Elle mange très peu, un repas frugal par jour, tout au plus, au point de préoccuper son frère Ambroise, hein, et elle lui fait remarquer à son frère, « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Vous connaissez cette parole, hein? Et pour elle, ce ne sont pas de vaines paroles, les paroles de Jésus, sa joie de reconnaître Jésus en tous et en tout, ne peut pas tromper. Je trouve dans un ouvrage écrit par des bénédictins que son frère, à Sainte Marceline Ambroise, alors qu'il était gamin, voyant des femmes baiser la main d'un évêque, présente aussi ses doigts pour rire à sa mère, puis à Sainte Marceline, sa sœur aînée. Bel évêque, disent les bénédictins, pas encore baptisé à ce moment-là. Bel évêque, bien oui, et il va devenir un très grand évêque. Si vos gamins font des choses un peu étranges comme ça, ne vous inquiétez pas. Alors l'exemple de Sainte Marceline, qui s'est faite, pour ainsi dire, religieuse, elle est consacrée à Jésus, ça attire d'autres jeunes filles. En effet, la première qui se présente, c'est Indicia et Candide, puis sa sœur, qui s'unissent à elle pour vivre retirées dans la prière et la pauvreté. Alors les quatre jeunes femmes vivent grâce aux travaux manuels qu'elles exécutent, paraît-il, avec beaucoup d'habileté. Puis, elles ne gardent que le strict nécessaire. Elles donnent tout le reste aux pauvres, ce qu'on appelle les œuvres de charité. Elles donnent aussi à l'Église. L'Église en a toujours besoin pour ses... Vous savez, entretenir toutes les églises que nous avons, les dispensaires, les hôpitaux, les centres d'aide à tout le monde, les centres pour les sidéens, etc. À Montréal, il y a des centaines et des centaines d'œuvres charitables de l'Église. Oui, rien qu'à Montréal. Imaginez dans tout le Québec et dans le monde entier. C'est des milliers, des milliers, des milliers d'œuvres. Alors Marceline ne cesse de répéter « Soyez riches pour les pauvres ». Oui, soyez riches pour les pauvres. Et elle ponctue ces sœurs-là, ou ces femmes-là, elle ponctue leur journée de prière, de service, qu'elles rendent aux plus démunis. Car, dans leur cœur, elle ne doute pas que la Sainte Vierge Marie faisait la même chose à Nazareth. Même si elle était prise de Dieu, Marceline n'en est pas moins réaliste et elle veille avec soin l'éducation de ses jeunes frères. Elle sait bien qu'une bonne formation leur permettra d'exercer de l'ascendant sur la société romaine et, plus tard, à Milan, à la mort de sa mère, elle prend particulièrement à cœur son rôle d'éducatrice. Alors elle procure à ses deux jeunes garçons, Ambroise et puis son frère aîné Satyre, des professeurs de droit, des professeurs de langue et de littérature, professeurs de philosophie, d'histoire et de politique. Pour ce qui est de leur formation morale et religieuse, elle s'en occupe elle-même. Puis, elle finit par la partager dès l'an 366 avec qui? Vous serez surpris. Ben oui, avec le nouveau pape Damase, qui est aussi un ami de la famille. Le pape leur apprend à ces jeunes à aimer l'Église intensément, au point qu'Ambroise se lie d'amitié avec ce pape Damase. Et c'est ainsi qu'au terme de leurs études, les deux frères de Marceline commencent brillamment leur carrière d'homme de loi. Satyre, quel nom, ça me gêne toujours de le prononcer, Satyre, par sa science et sa droiture, qui va être canonisé, lui, s'impose au tribunal. Alors qu'Ambroise, lui, qui est avocat, devient conseiller du préfet de Prétoire, Sixte Préton. On a même son nom, comme vous voyez. Et ce n'est que peu d'années plus tard, en 372, qu'il est nommé gouverneur de la province de la Haute-Italie, le nord de l'Italie, quoi, parce que Milan, c'est dans le nord, Et il s'installe à Milan, où sa sagesse éclairée lui gagne l'estime de tout le monde. Et un jour, Marceline, qui est toujours à Rome, apprend que son plus jeune frère, il lui est arrivé quelque chose de fantastique. Il a été consacré évêque de Milan par acclamation du peuple. Quoi? Voici ce qui s'est passé. Ambroise, qui est avocat, qui est très connu, qui veut calmer le tumulte de la foule qui s'entendait pas sur le choix d'un évêque, s'était rendu à la cathédrale. Aujourd'hui, il y a une cathédrale à Milan, fantastique, il faut visiter ça. C'est ça le dôme de Milan, cathédrale gothique immense, immense. Alors, en voyant un enfant, en voyant plutôt l'évêque, pas l'évêque, mais Saint Ambroise, là, qui est un laïc, il y a un enfant qui s'écrit Ambroise évêque. Vous connaissez probablement cette histoire, on la raconte souvent. Ambroise évêque, et tout le peuple l'approuve. Alors Ambroise, qu'est-ce qui lui arrive? Mais il reçoit le baptême. Il n'était pas baptisé encore, je vous ai dit qu'il s'était baptisé très tard. Il reçoit le baptême des mains de Saint-Simplicien, puis il est consacré évêque 8 jours plus tard, le 7 décembre 374. C'est le jour où on le fête, ça, le 7 décembre. Il avait 34 ans seulement. Son frère aîné, Satyre, apprenant la nouvelle, laisse les honneurs de sa profession, puis le rejoint pour le seconder dans sa nouvelle tâche. C'est ce que fait également Marceline en quittant Rome pour venir s'établir à Milan, dit-on. Et rapidement, l'éloquence fantastique de ce nouvel évêque, Ambroise, touche les cœurs. Il sait parler aux gens. Je suis allé à des funérailles hier à Sainte-Madeleine d'Outremont, d'une grande amie à moi qui est décédée à 95 ans, Madame Régine Gaulle. Et le nouveau curé que je connais depuis le temps où il était séminariste a parlé avec tellement d'intelligence, à une telle éloquence profonde. Quel homme admirable, Paul Delorme, quel prêtre qui s'est occupé longtemps du catéchuménat. Vous cherchez une messe qui vous plaira un peu au début avant de comprendre que toute messe est une messe et que peu importe comment elle est célébrée, c'est une messe et c'est une richesse immense. Vous pouvez aller là, Sainte-Madeleine d'Outremont, sur la rue Outremont à Outremont. Donc, son éloquence embrasse, touche les cœurs, et particulièrement ceux de nombreuses jeunes filles qui désirent se vouer à Dieu après avoir entendu parler, ce jeune évêque, de la beauté de la vie consacrée. Oui, la beauté de la vie consacrée, si on le savait, beaucoup de jeunes quitteraient leurs emplois fastidieux, leur vie terne. Ils passent leur temps devant des ordinateurs ou je ne sais quoi. Pour se consacrer, oui, se donner, dans toutes ces congrégations qui attendent des jeunes. Et c'est ainsi que cet évêque va écrire en 378, parce qu'il va être inspiré par la vie de sa sœur Marceline, son traité très connu « De Virginibus, des Vierges ». Et en voyant Marceline et ses compagnes vivre ce que l'évêque a si bien écrit dans son traité, c'est saint Augustin qui se convertit. Oui, dans ses confessions, il avoue avoir dit « Ce que font ces femmes-là, ne pourrais-tu pas le faire toi aussi hein? Ce que font les gens consacrés, ne pourrais-tu pas le faire toi aussi ?» C'est saint Augustin qui a changé sa vie à partir de ce jour-là. Hein? Lui qui était père d'un enfant, il y avait une compagne, comme on dit aujourd'hui, autrefois on disait une maîtresse, ça veut rien dire, disons une grande amie, et puis il avait un enfant. Il s'est converti, a changé de vie complètement. Et depuis le retrouvaille à Milan, Ambroise et Marceline passent de longues heures à se parler de Dieu. Ils n'ont qu'une ambition, se sanctifier en donnant leur vie pour l'humanité. Alors cet évêque tient sa sœur au courant de tous les événements du diocèse. Et ainsi, sainte Marceline partage avec lui les inquiétudes de son ministère et toutes les fois que l'Église éprouve des difficultés, bien, la charité de Marceline prend une nouvelle forme. Son ardeur ne se dément pas, hein. Elle écrit lettre sur lettre. Elle prie régulièrement. Puis elle mène une vie austère. Elle qui vient d'une très grande famille, très riche. Elle instruit également les jeunes filles qui désirent se consacrer à Dieu. Elle leur transmet l'esprit contemplatif de Marie et le dynamisme inassable de Marthe. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bon, je vais ouvrir ma Bible et je vais aller voir. C'est dans l'Évangile de Saint-Luc, au chapitre 10. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied du Seigneur et écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée aux nombreux travaux du ménage. Elle survint et dit, « Seigneur Jésus, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, 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 tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » Alors, quand on est dans un monastère et qu'on lit ça, on a les larmes aux yeux. Mais ça demeure vrai pour tout le monde. La prière est très importante dans nos vies. Pour aller à la messe tous les jours, me semble, c'est un minimum. Un minimum. Pour prier aussi, chez soi. Alors, en 378, Satyre quitte Milan pour l'Afrique, lui. Dans le but de régler des affaires de famille, son départ inquiète Marceline, d'autant plus que peu de temps après, son autre frère Ambroise, gravement malade. Il est gravement malade. Elle est à son chevet, jour et nuit. Puis grâce à Dieu, Ambroise reprend des forces et guérit. Mais la joie est de courte durée. Bien vite, on apprend que les barbares, les Visigoths, ont envahi Rome. Ils menacent aussi la Haute-Italie, où est Milan. Alors Satyre est inquiet. Lui qui est en Afrique, il décide, en 379, de revenir à Milan. Mais à la suite d'un voyage difficile où il a failli perdre la vie, il tombe malade à son tour. Malheureusement, ses forces ne suffisent pas à lutter contre le mal et il meurt. Alors il laisse Marceline et Ambroise dans un grand désarroi parce qu'il l'aimait beaucoup. D'ailleurs, comme je vous ai dit, les deux étaient canonisés. Saint Satyre, quoi. Drôle de nom. Et Marceline et Ambroise ne trouvent réconfort que, finalement, dans la foi. La foi nous soutient dans les deuils. Et la paix revenue, bien, Marceline se retire de plus en plus dans la villa paternelle, près de Rome, où elle prie, elle copie des livres, évidemment des livres religieux. Elle médite sur les merveilles de la création. C'est bon de méditer sur les merveilles de la création. Elle vit pauvrement sur le plan matériel, mais riche sur le plan spirituel. C'est pas qu'elle est pauvre, vraiment, elle pratique la pauvreté. Elle devient le meilleur exemple à suivre pour ceux qui croient encore aux idoles. Hein? et sans arrêt, elle continue à se vouer pour tous ceux qui ont besoin de son aide. Dès 385, un nouveau conflit éclate. L'impératrice Justine, mère de l'empereur Valentinien II, s'est jurée de quoi? De donner la cathédrale de Milan aux Ariens. Je vous en ai souvent parlé, des Ariens, hein? Ce sont des disciples d'un prêtre, Arius, prêtre d'Alexandrie, en Égypte, qui niait la divinité du Christ. Alors Ambroise est prêt à mourir plutôt que de lui céder. Mais cependant, les menaces se transforment bien vite en persécutions violentes, que l'évêque de Milan, Ambroise, réussit après plusieurs jours à réprimer. Mais il sent que l'empereur Valentinien n'a pas dit le dernier mot, et l'année suivante, son pressentiment se confirme. Puis, effectivement, Ambroise est menacé de mort et d'exil. Heureusement, le complot monté contre lui échoue. Et pendant ces temps difficiles, l'évêque correspond avec Marceline, sa sœur, qui ne manque pas de le soutenir moralement. Sainte Marceline dira quelques années plus tard, en repensant à ces événements tragiques, « Nous te rendons grâce, Seigneur Jésus, qui dans ces grandes épreuves de l'Église nous a suscité de si grands défenseurs. » Alors, peu de temps avant sa mort, Satire avait dit à sa sœur, « Je te laisse tout, et mes pauvres aussi. » Et elle n'oublie pas ses paroles, et Marceline ne néglige rien pour secourir les indigents. Et à mesure que l'heure de la rencontre avec Dieu approche, elle sent, en son âme, un désir immense de le voir face à face. Et le 4 avril, c'est aujourd'hui le 1600e anniversaire, le 4 avril 397, Ambroise, âgé de 57 ans, meurt saintement après avoir communié au corps du Christ. Et la nouvelle de sa disparition se répand, et un grand deuil envahit l'Église entière. Il y en a qui disent « La perte d'un si grand homme, c'est la mort qui plane sur l'Italie. » Alors, Marceline a l'impression d'un grand vide, et c'est comme si elle avait perdu son propre fils. Et en juillet de la même année, Marceline ne quitte plus son lit. « Enfin, dit-elle, je m'en vais. » Et je suis bien contente. Parce qu'après tout, je m'en vais dans la maison de mon père, dans le palais de mon roi, dans la joie de mes frères. Je laisse tout ce que je possède aux pauvres et à l'Église. Et à l'aube du 17 juillet 397, ce sera dans quelques mois cet anniversaire, Marceline reçoit la communion et s'endort doucement en Dieu. Elle entre dans la lumière de Dieu. Qui a accompagné Sainte Marceline dans ses derniers moments, atteste bien que Sainte Marceline est morte saintement, et ses funérailles ont été très, très solennelles. Hein. Faut lire le récit, c'était incroyable. On l'estime, on la vénère déjà comme une grande sainte un peu partout. Par la suite, on transfère son corps dans la basilique ambrosienne à Milan, où elle est enterrée entre ses deux frères. Il faut visiter cela, Milan, c'est de toute beauté. Saint Simplicien rend un bel hommage à Marceline, et ses paroles ont servi à la canonisation de cette sœur aînée d'Ambroise, Saint Ambroise. Les écrits de Saint Ambroise, d'ailleurs, au sujet de Marceline, sont venus confirmer la sainteté de sa vie. Et rapidement, on la considère bien heureuse et on l'invoque avec confiance. En 1722, le cardinal de Scalchi, archevêque de Milan, fait prendre les reliques de la sainte en terre, là, et en 1812, on les a transférées solennellement dans la nouvelle et magnifique chapelle qui lui est dédiée. On peut encore aujourd'hui la prier, la vénérer. On attribue à Marceline les titres de « mère de la patrie » et de « propagatrice de l'Église ». Ce sont deux titres immenses qui résument à eux seuls les caractéristiques de la spiritualité de Sainte Marceline. Ces titres étaient conférés seulement à une personne dont on reconnaissait le dévouement extraordinaire, tel que l'avait été celui de Marceline, malheureusement si peu connu, son dévouement envers les pauvres et envers l'Église. En effet, elle avait travaillé à garder l'unité entre les évêques et le peuple. Elle avait toujours considéré la famille chrétienne comme une Église domestique, parce que la famille, le père, la mère, les enfants, c'est comme une église domestique. Et c'est très important qu'elle soit solide et priante et vraiment croyante. Et pour elle, il fallait particulièrement bien former, comme elle a formé ses deux frères. Et depuis, en guidant dans leur cheminement plusieurs jeunes femmes consacrées, elle a contribué, Sainte Marceline, à répandre au cœur même de l'Église l'amour de Dieu puis l'amour des pauvres. C'est conformément à l'esprit de Marceline que les paroles prononcées par le pape Saint-Libert, dont je vous ai lu les paroles tout à l'heure lors de la consécration de Sainte Marceline, se concrétisèrent. Comment ça? Je vous en ai fait allusion tout à l'heure, hein? Parce que elle est morte à Tchernousko sul Naviglio, en banlieue de Milan. Et c'est là qu'est née, en 1838, comme je vous l'ai signalé au début de l'émission, la congrégation des sœurs de Sainte Marceline. Les Marcelines, comme on les appelle, et que l'on voit à Montréal un peu partout, puisqu'on les reconnaît facilement à leur costume noir. Mais elles sont joyeuses, elles sont heureuses, ce sont en bonne partie des Italiennes. Quelles femmes admirables! Et encore aujourd'hui, les membres de cette congrégation, mais continuent, comme leur patronne, à enseigner Jésus. Oui, il voulait, lui, le fondateur, qu'elles enseignent Jésus à tous ceux et celles qui les entourent. Alors, ça a été fondé avec, en 1838, et Monseigneur Biraghi, le fondateur, Luigi Biraghi, qui est mort en 1879, a choisi Marceline comme sainte patronne pour la nouvelle congrégation, parce qu'elle a été un modèle d'éducatrice, qui a su élever, comme je vous l'ai signalé, dans la lumière de la foi, ses deux jeunes frères. Et depuis, elle a également été l'initiatrice d'une forme de vie communautaire de femmes consacrées à Dieu, tout en étant au service de leurs frères les plus pauvres. C'est que Monseigneur Biraghi, c'est B-I-R-A-G-H-I. C'est un Italien, évidemment. Monseigneur Biraghi, ce qu'il désire le plus, c'est que ses sœurs soient des imitatrices de la Vierge et des imitatrices de Sainte Marceline, et que toute leur activité éducative soit basée sur cette parole, comme je vous ai dit, d'enseigner Jésus. Et en effet, Monseigneur Biraghi est un homme de grande sainteté, et puis c'est un savant, hein, c'était pas n'importe qui, a saisi l'importance de former adéquatement des personnes capables de reconstruire la famille, oui, et la société, en ce 19e siècle qui était particulièrement chargé de tensions puis de problèmes. Et c'est en s'appuyant sur une grande vie intérieure, un esprit de famille, qui est devenu caractéristique que les sœurs Marceline, depuis les origines, vivent leur mission. Mission d'éducatrice, en bonne partie, en étant toujours au milieu de leurs élèves. Et cette méthode privilégiée d'éducation, ça vise à former la jeunesse beaucoup plus par l'exemple que par de longs discours. Cependant, leur action ne se limite pas à l'école, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, les religieuses, dans d'autres pays que le Québec, s'engagent là où les besoins sociaux sont les plus urgents. Hein. Elles sont dans des hôpitaux, dans des maisons de retraite, mais ça, elles ont une grande maison de retraite de 300 personnes. Ça s'appelle l'Amitié, et c'est sur le boulevard Gouin-Ouest, à Saraguay, à côté de leur collège, qui est là aussi. Elles ont une autre maison d'enseignement, à Westmont, sur Upper Belmont. Ça leur a été donné une magnifique résidence. Elles ont, quoi, peut-être 300 élèves, là, un peu plus même. Et donc, elles travaillent aussi dans des œuvres paroissiales et missionnaires dans le monde, dans des léproseries, des dispensaires, des maisons pour mères célibataires. Hein. On les retrouve en Italie, en France, en Suisse, en Angleterre, au Brésil, ici, puis au Mexique et même en Albanie. Hein. Alors, ce sont des religieuses que je salue. Je suis entré en communication, malheureusement seulement par téléphone, avec certaines d'entre elles. Je les ai beaucoup appréciées.